Bonjour frères et sœurs. Je pense que les plus grands auraient pu rester là avec nous. Ils sont assez grands pour écouter un message. Hein, ça aurait fait un peu plus de monde. Mais bon, on ne doit pas se fier au monde, au nombre. Hein, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus est au milieu de nous. Nous pouvons en être assurés. Alors bien sûr, c'est le dimanche de Pâques, donc le message va concerner la Pâque. Un peu logique pour comprendre un autre sujet que celui-là. Mais nous allons prier d'abord. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, nous fêtons aujourd'hui Pâques et tu es venu pour nous sauver. Nous voulons nous rappeler ces choses, comprendre toute ton œuvre, Seigneur, pour nous, pour ceux qui nous entourent, que cette bonne nouvelle puisse encore être méditée, prêchée, pour que d'autres s'ajoutent, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont partis pour ce week-end, garde-les dans ton esprit, dans la foi en toi, garde-les dans la paix, dans ta grâce, dans ton amour. Protège chacun aussi sur les chemins, Seigneur. Garde-les, protège-les. Amen. Alors, nous fêtons Pâques. Donc cela nous renvoie bien sûr 2000 ans en arrière. Et aussi même 1450 ans environ, plus loin encore, avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même 3450 ans. Hein? Environ, hein, parce que les dates, il y a toujours des petites différences, suivant qu'on prend des chronologies qu'on appelle longues ou courtes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc nous sommes à l'époque des pharaons d'Égypte. À l'époque de Moïse, nous apprenons dans la parole de Dieu, dans l'Exode, que le séjour des enfants d'Israël en Égypte a été de 430 ans. Ils ont été bien accueillis au début, à l'époque de Joseph. Mais ensuite, ils ont été opprimés. Leur vie s'est transformée en esclavage. La famille de Jacob qui est venue en Égypte, sans compter les épouses en général, était de 70. Et quand ils sortirent d'Égypte, le nombre était de 600 000 hommes de pied, sans les enfants et sans les épouses, parce que souvent ce sont les hommes qui étaient comptabilisés. 600 000 hommes. Environ 2 millions de personnes avec les femmes et les enfants. Donc la famille est devenue un peuple. Et c'est ce peuple que Dieu va libérer. Ce n'est donc pas une mince affaire. Cela va donner lieu à une démonstration de puissance, de la puissance de Dieu. Dieu s'adresse à Moïse et lui indique ce qu'il va dire, ce qu'il doit dire de la part de Dieu, ce qu'il doit dire au peuple. Alors nous lisons donc dans Exode au chapitre 6, et à partir du verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Donc Dieu expose à Moïse et aux enfants d'Israël, Dieu expose son projet. Il fait trois promesses. La première, je vous affranchirai, je vous délivrerai de leur servitude. La deuxième promesse, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et la troisième, je vous ferai entrer dans le pays promis, le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si nous considérons que l'Égypte représente le monde qui est dominé par Satan, si nous considérons que nous sommes le peuple de Dieu, nous pouvons transposer ces trois promesses pour nous et les recevoir spirituellement. Dieu veut nous affranchir de l'esclavage, de la domination du diable. Dieu nous veut pour son peuple. Il veut être notre Dieu. Et Dieu nous fera entrer dans le pays promis, dans le ciel, dans son royaume. Ce sont les mêmes promesses qui sont pour nous, mais de façon spirituelle. Dieu va faire des miracles et des prodiges pour forcer Pharaon à libérer son peuple. 600 000 hommes à libérer de l'esclavage. Comprenez bien que les Égyptiens ne vont pas les laisser partir comme ça. Les esclaves qu'on a comme ça, qui travaillent pour nous, les laisser partir, une grande perte pour l'Égypte. Donc, il va y avoir 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte pour que Pharaon enfin cède à l'injonction de Dieu. L'eau changée en sang, la première des plaies, la deuxième les grenouilles, la troisième les poux, la quatrième les mouches venimeuses, la cinquième, la mortalité du bétail. La sixième, les ulcères sur les hommes et les animaux. La septième, la grêle et le feu. La huitième, les sauterelles. Neuvièmement, les ténèbres. Et enfin, la dixième et dernière plaie, la mort des premiers-nés des hommes et des animaux. Alors, il y a plusieurs remarques par rapport à ces plaies, par rapport au récit de ces plaies dans l'Exode. Les premières plaies sont imitées par les magiciens d'Égypte, les deux premières plaies. Mais dès la troisième, ils doivent reconnaître leur impuissance et dire « c'est le doigt de Dieu ». Dieu ne laisse pas sa gloire à un autre. Il n'y a pas d'équivoque possible. Seul Dieu est capable de produire toutes ses plaies. Et les magiciens eux-mêmes ne pourront pas non plus échapper aux ulcères que les Égyptiens auront sur leur corps, même les magiciens ne pourront même pas l'éviter pour eux-mêmes. Ils sont pareils que les autres. Ils ne sont pas plus forts que les autres, ils ne peuvent pas échapper. Deuxième constatation, c'est que Dieu établit une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Dieu le fait pour que la différence soit nette, que tout le monde le constate, pour que l'on sache que l'Éternel est au milieu du pays. À travers son peuple, l'Éternel est au milieu du pays. Et il faut que les Égyptiens en soient conscients. Donc il y a un traitement différent entre les Hébreux qui sont dans le pays de Goshen et les Égyptiens. Cela est précisé dans le texte biblique pour 5 plaies sur 10. C'est une précision qui est apportée, qui est importante. Une troisième remarque, c'est que certains Égyptiens tiennent compte des avertissements et des jugements qui sont annoncés par Moïse, et du coup, ils échappent aux châtiments, à certains châtiments, parce qu'ils tiennent compte des remarques, et par exemple, quand la grêle va tomber, et que ça va tuer beaucoup d'hommes et de bétail, eh bien eux, ils écoutent le conseil et ils se mettent à l'abri, et ils mettent leurs serviteurs à l'abri, donc ils échappent au châtiment. Donc, il y a des Égyptiens qui ont tenu compte de ce qui était dit, et donc, voilà. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Ça nous enseigne beaucoup de choses. Hein. C'est que les chrétiens subissent, comme la société environnante, les décisions prises par les dirigeants et les catastrophes environnementales, par exemple, qui s'abattent sur le monde. Les chrétiens supportent les jugements comme les autres. Comme les autres. Mais Dieu peut leur épargner certaines épreuves pour faire la distinction entre les impies et les croyants. C'est une grâce que Dieu accorde à son peuple. Nous lisons dans Malachie au chapitre 3 et à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Donc, le jugement va venir sur le monde, mais il va y avoir une différence entre les méchants, les impies, ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, et ceux qui croient, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Il va y avoir une distinction, une différence. Si parmi les impies, il y en a qui écoutent et qui suivent les avertissements, alors ils peuvent, comme le peuple de Dieu est sauvé par lui, et bien ils peuvent aussi bénéficier de la grâce. Ils peuvent être sauvés. Et il est encore temps de leur annoncer la grâce de Dieu. La dernière plaie, la dixième donc, va toucher les premiers-nés. et même les premiers-nés des animaux. Les premiers-nés, c'est écrit dans la parole de Dieu que ce sont les prémices de la force d'un homme. Leur premier enfant, c'est toujours quelque chose de particulier, un événement particulier, et ce sont les premiers-nés qui vont être touchés. Toutes les familles vont être touchées. Dans Exode, on voit, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dès qu'il y a un enfant, c'est obligatoirement le premier né. S'il y en a deux, s'il y en a trois, c'est toujours le premier qui est mort. Et dans toutes les maisons d'Égypte, il y en avait. Donc tout le monde a été touché. C'est donc une épreuve terrible. Et même le premier-né de Pharaon va être touché. Mais les Hébreux vont être, encore une fois, épargnés. Cependant, ils vont être épargnés à cause d'une seule chose. Il va falloir qu'ils obéissent et qu'ils démontrent ainsi leur foi en Dieu. Il va y avoir un sacrifice et un témoignage de ce sacrifice, c'est-à-dire le sang, qui est badigeonné sur les linteaux et les montants des portes. Ils vont devoir rester dans la maison, dans les maisons, sous la protection de Dieu quand l'ange exterminateur passera. Ceux qui ne font pas ce geste, ce sacrifice, qu'ils ne font pas, qu'ils ne vont pas mettre le sang sur les linteaux, eh bien, ils subiront le même châtiment que les Égyptiens. Et heureusement, ils ont cru à cette parole, ayant vu déjà les 9 châtiments précédents, ils ont cru à cette parole et ils ont fait ce que Moïse leur a dit de faire. Et ils ont ainsi échappé à l'ange exterminateur. Donc suite à cela, Dieu va instaurer ce qu'il appelle la Pâque, que les Hébreux devront fêter tous les ans en mémoire de ce qui s'est passé. Les règles de la Pâque sont très précises et parlent à l'avance du sacrifice de l'agneau de Dieu pour les hommes. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les règles et analyser, ça prendra peut-être un peu de temps. Dans Jean au chapitre 1, 29, le lendemain, là il est parlé de Jean-Baptiste, hein, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui est sacrifié par les Hébreux au moment de la Pâque juive préfigure déjà Jésus, l'agneau de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc cet agneau, c'est Christ qui est immolé. Oui, Jésus est l'agneau immolé qui est célébré aussi dans l'Apocalypse au chapitre 5. Je lirai 5, versets 6 à 14. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, Jésus, comme nous venons de dire, est cet agneau immolé. Et en fait, cet agneau pascal, immolé par les Hébreux pour bénéficier de la grâce de Dieu, c'est déjà la préfiguration de Jésus, l'agneau immolé, qui nous délivre. Pour les Hébreux, comme pour nous, le salut est obtenu de la même façon, par la grâce, à cause du sang de l'agneau. Dans Éphésiens, tout le monde connaît ce passage, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Et dans Acte 15, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Ici, c'est un juif qui parle des non-juifs. Les Hébreux de l'époque de Moïse ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs œuvres. La loi n'avait pas encore été donnée. C'était avant que la loi soit donnée à Moïse. C'est donc la grâce de Dieu qui leur a donné ce moyen de salut. Et pour les Juifs de l'époque de Jésus, les apôtres, qui eux avaient reçu depuis longtemps la loi de Moïse, ils ont dû comprendre par contre que la grâce qu'ils recevaient en Jésus était la même qui était accordée aux païens, sans que ceux-ci ne doivent passer par la loi donnée à Moïse. Ils ont dû accepter que, voilà, eux, Hébreux, Juifs, étaient sauvés par la grâce, donc c'est la même chose pour les païens, ils sont sauvés par la grâce. Et finalement, c'est la même chose qui s'était passée à la sortie d'Égypte. Les Hébreux ont été sauvés par la grâce de Dieu. Juifs et païens se retrouvent devant le même sacrifice qu'ils doivent accepter et témoigner de leur foi pour être sauvés et délivrés de la puissance du péché et de la tyrannie du diable. Les Hébreux ont échappé à un jugement passager, mais la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous fait échapper au jugement éternel. Pâques, ça veut dire passage. Passage. Le sacrifice de Jésus sur la croix nous fait passer de l'esclavage à la liberté. Nous lisons dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il nous fait passer aussi des ténèbres à la lumière. Il y a un épisode dans les Diplées où il y a les ténèbres qui couvrent l'Égypte. Mais par contre, dans le pays de Goshen, il y avait la lumière. Jésus nous fait passer des ténèbres à la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais en plus, le sacrifice de Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et au chapitre 11, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pour les Hébreux, il est écrit que Dieu s'est souvenu de son alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Lisons dans Exode chapitre 2. C'est une façon de parler, bien entendu, de dire que Dieu, tout à coup, c'est pas comme nous, tout à coup, on se souvient de quelque chose. Dieu s'est souvenu. En réalité, Dieu n'oublie rien. C'était le moment, maintenant, d'agir. Donc Dieu s'est souvenu de son alliance, mais Dieu n'oublie rien. Ce qu'il promet, il le fait toujours. L'alliance qu'il a établie par Jésus-Christ est une alliance éternelle. Et ce n'est pas parce que ça s'est passé maintenant il y a 2000 ans que c'est oublié. Cette alliance, elle est la même, elle reste toujours, éternellement. Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Et dans l'Épître aux Hébreux, et il parle de Jésus, et l'apôtre qui a écrit cet épître dit, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Dieu a manifesté sa puissance pour les Hébreux, pour les délivrer d'un pharaon qui était tyrannique. Mais pour nous délivrer de la puissance du péché et de la mort, il a manifesté une puissance encore supérieure. Et cette puissance se manifeste dans l'Évangile. Dans Romains au chapitre 1, verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'Évangile, c'est une puissance. C'est Dieu qui nous délivre de nos péchés, qui nous délivre de la mort, qui nous délivre de l'esclavage. Et il en a fallu manifester de la puissance pour nous arracher au diable. Dans son cantique, Marie dit que Dieu a déployé la force de son bras. Et Paul, en Éphésiens 1, dit qu'il désire que nous croyons et que nous voyons quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'homme croyait s'être débarrassé de Dieu. L'homme croyait s'être débarrassé du Christ. Il avait été crucifié sur la croix. Le diable croyait avoir la victoire. Mais Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Donc, vraiment, c'est une puissance qui a été déployée là, la puissance de Dieu pour vaincre l'adversaire. En définitive, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est la même chose. Ce n'est pas un symbole, c'est la même réalité. C'est Dieu qui intervient dans la vie des hommes pour les délivrer de l'esclavage, du péché et de la mort. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Cela ne dépend pas de nos origines. Cela ne dépend pas de l'héritage que nous aurions reçu, comme les Juifs étaient héritiers des promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et l'apôtre Paul dit que les Juifs, ils sont aimés de Dieu à cause de leur père. Mais donc, ça ne dépend pas de l'héritage que nous aurions reçu ou non de nos pères. Le salut, il est accordé à tous. À tous et à chacun en particulier, en vertu de la grâce imméritée accordée à la croix. Que nous soyons juifs d'origine ou non, que nous soyons d'origine païenne, que nous soyons d'origine impie, athée, que nous soyons d'origine chrétienne, parce que peut-être que plusieurs ont été enseignés dans la foi chrétienne. Ce n'est pas de ça que ça dépend, notre salut. Notre salut dépend uniquement de la grâce de Dieu et de ce que nous, nous croyons, que nous nous approprions cette grâce. Si nous avons un passé chrétien, si nous n'approprions pas cette grâce pour nous, nous ne bénéficions pas du salut. Si nous avons un passé d'une autre religion, si nous n'approprions pas la grâce de Dieu pour nous, nous ne sommes pas sauvés. Ça ne dépend pas de notre passé, ça ne dépend pas de nos origines, ça ne dépend pas de tout ça. La grâce de Dieu, elle dépend de l'œuvre qui a été accomplie à la croix par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur affermisse cette pensée dans nos cœurs.